On a pris un petit, pause dans notre, une petite pause dans notre étude des petits prophètes depuis quelques semaines. Et après les attentats de l'attentat de Nice du 14 juillet, on a parlé de différents sujets, notamment des combats que nous avons à livrer dans notre vie. Et un de ces combats, notamment après ces actes terroristes récents, c'est le combat contre la peur. Et puis, on a parlé aussi du combat contre les soucis. Et on a remarqué ensemble que on a tendance à être préoccupé par des tas de choses, nos peurs notamment. On sait statistiquement que 98% du temps, ces choses dont on a peur, ces choses pour lesquelles on s'inquiète, ne se produisent pas. Alors ça ne veut pas dire on doit vivre une vie sans être responsable, sans prier, sans penser au lendemain, mais la Bible est là pour nous dire que nous avons un Père céleste qui peut prendre soin de nous. Et l'exemple fameux de Jésus qui parlait dans le sermon sur la montagne, il faisait remarquer aux gens qui avaient des inquiétudes sur le lendemain, il leur faisait remarquer que les oiseaux des champs, ils n'avaient pas de programme d'agriculture, ils ne plantaient pas des graines pour les récolter, les entasser après dans des silos. Ils se contentaient de faire confiance à leur Père céleste. Et ces oiseaux, non seulement ils mangeaient bien, mais les fleurs des champs au milieu desquelles ils vivaient, elles étaient mieux vêtues que Salomon au temps de sa gloire. Et nous avons à faire des progrès et à faire confiance à Dieu. La foi chrétienne, c'est de croire qu'il y a un Dieu. Il faut moins de foi pour croire en Dieu que de croire que tout ce qu'on vit ici-bas est le fruit d'un accident cosmique et qu'il n'y a pas de cause, mais qu'il y a des effets. C'est complètement absurde, mais c'est surtout pour des questions morales et philosophiques que les hommes rejettent l'existence de Dieu. Et ce Dieu, la Bible nous révèle qu'il est non seulement il est tout-puissant, mais c'est aussi un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime et qui a de bons plans pour notre vie. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet et je vais d'abord prier pour que le Seigneur nous parle ce matin encore. Seigneur, merci parce que tu as parlé, ta parole nous dit, par un temps, par ta création, par la conscience morale que tu as placée en nous, par les prophètes que tu as envoyés. Et dans les temps, ces derniers temps qui sont les derniers, par ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Il est venu, il s'est incarné, il a pris à notre place la punition que méritent nos péchés, et il veut nous donner la vie. Il veut nous permettre de te connaître et de vivre une vie abondante, non seulement ici-bas, mais comme le rappelait Lindsay, pour l'éternité. Seigneur, aide-nous à avoir des cœurs ouverts, surtout si nous ne te connaissons pas vraiment encore. Seigneur, parle-nous ce matin par ta parole. Amen. Pour commencer, je voudrais vous parler du you-you de yo-yo. Le you-you de yo-yo, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, quand j'étais petit enfant, j'avais une sœur qui était un peu plus jeune que moi et on nous avait appelés yo-yo et yo-yette. Donc c'est un secret que je vous demanderai de ne pas révéler à tout le monde, mais quand j'étais gosse, mes parents m'appelaient Yo-Yo. C'est drôle parce que Daphné, je lis à Daphné un livre qui s'appelle les Jojo fait son numéro et elle n'arrive pas à dire Jojo, elle dit Yo-Yo. Yo-Yo et son you-you. Qu'est-ce que c'est qu'un you-you? À l'époque, et c'était une expression un peu déjà démodée à l'époque, le you-you c'était un petit bateau. C'était un petit canot et le you-you de Yo-Yo, c'était ma... J'avais une grande tante qui était pleine d'amour pour ses petits-neveux et petites-nièces. J'avais aussi une grand-mère, mais une grand-mère qui était stricte et qui était moins chaleureuse que Tante Marie. Tante Marie, elle savait que Yo-Yo, il voulait un you-you. Le goût m'était venu parce que un été, j'étais à la plage, on passait un été sur la côte atlantique, et j'avais eu l'occasion de monter dans un bateau pneumatique. Et c'était merveilleux de pouvoir quitter la plage et de s'avancer dans l'eau avec des gens, des adultes. Et quand j'étais rentré à Paris, on habitait Paris à l'époque, je rêvais encore de ce bateau pneumatique. Il n'y avait pas Internet, mais on pouvait aller dans les magasins et prendre des catalogues. Et j'avais pris un catalogue dans un magasin de sport et je regardais les you-you, les bateaux pneumatiques qui étaient disponibles. Et j'en rêvais. J'en rêvais au point de mesurer par terre, sur le plancher, de mettre des bouts des stylos, des règles, pour mesurer, voir qu'est-ce que donnerait l'idée d'être dans le you-you, dans ce bateau pneumatique. J'étais un peu obsédé par ce you-you. Et ma bonne tante Marie savait que j'en rêvais au point de le mettre un peu en 3D, de me dire qu'est-ce que ça serait bien d'être dans l'eau, au milieu. C'était pas bien large, hein, ce petit you-you. Mais c'était bien au-delà de mes économies. C'était même au-delà de ce que mes parents pouvaient m'offrir. Et cette brave tante Marie, un soir, parce qu'on dormait, quand elle venait nous voir, elle habitait à Nancy, mais elle venait souvent nous voir à Paris. Et elle prenait la place de ma sœur qui allait dormir avec mes parents, je crois. Et donc, je dormais à côté de ma tante Marie. Et un soir, elle me dit... Yo-yo. Je dis oui, tata. Elle dit, tu sais, ton you-you, je pourrais te l'offrir. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, j'ai quelques économies. Si tu veux, je te l'offre, ton you-you. Mais c'était une femme très généreuse, mais aussi qui était très pauvre. Elle était retraitée. D'un employé, elle était la veuve d'un employé de la SNCF. Elle avait une toute petite retraite. Il y a un chanteur français, Pierre Perret, qui, parlant d'une jeune femme qui avait la taille très mince, disait que sa taille était aussi mince que la retraite des vieux. À l'époque, ça a fait quelques progrès, mais à l'époque, vraiment, c'était très mince, très maigre. Et j'avais été, en fait, bouleversé par le fait qu'elle était prête, par amour pour moi, pour me faire plaisir, de casser ses économies, le peu d'économies qu'elle avait, pour offrir un you-you à Yo-Yo. Et je lui avais dit non. Non, c'est pas si important. D'abord, je ne pourrais pas m'en servir. Je n'allais pas aller l'utiliser sur la Seine ou dans une piscine. Je lui ai dit, ça peut attendre. Et j'ai attendu en fait d'avoir 33, 35 ans avant de pouvoir m'offrir un petit bateau pneumatique. Et finalement, Yo-Yo a eu son Yo-Yo. Mais si je vous raconte cette histoire, c'est pas pour vous alliez dire à tout le monde que le pasteur s'appelle Yo-Yo. Mais pour vous parler du contentement. Cette histoire m'a appris une leçon que j'ai retenue avec reconnaissance. Parce que j'ai réalisé qu'en fait, j'avais pas besoin de ce bateau, que je pouvais très bien vivre sans, que ça n'avait aucune espèce d'urgence. Et ironie de l'histoire, hier j'étais en train d'acheter une lampe, une ampoule pour réparer une ampoule qui avait claqué ici dans l'église. Et en payant à la sortie à Bricorama, j'ai vu qu'ils sont en train de solder des Yo-Yo pour 19,99 €. Et c'était un clin d'œil pour dire, tu vois, tu as su t'en contenter. Maintenant, si tu voulais, tu pourrais t'en acheter peut-être un ou deux. Un pour chaque pied, pour avoir plus de place. Mais on vit dans une société, et ça fait partie des combats que nous avons à mener pour savoir vivre dans le contentement. On peut dire même que c'est un problème reconnu même par les non-chrétiens. On a chanté des cantiques, j'aurais pu demander à Lindsay de chanter un tube des Rolling Stones qui disait « I can't get no satisfaction ». I can't get no satisfaction. Ce chant, on connaît le refrain. On sait pas de. En général, on l'a appris sans connaître l'anglais, donc on ne sait pas trop ce que ça dit. Mais le texte nous parle de la publicité à la télé qui nous dit qu'on va pouvoir laver notre chemise plus blanche que blanc. Ça rappelle le sketch de Coluche. On vit dans une économie où le manque de contentement, le manque de satisfaction, le toujours vouloir davantage est un moteur de l'économie. On nous dit qu'on pourrait faire des machines à laver ou des téléviseurs qui marchent pendant 20 ans, 30 ans, mais il y a le concept de l'obsolescence programmée. Et puis, il y a toujours un nouveau modèle. Bientôt va sortir l'iPhone numéro 7. J'en suis resté à l'iPhone numéro 4 et je dois dire que j'ai du mal à me contenter de cet iPhone. Même un 5 serait déjà un grand progrès. Mais, en fait, la Bible parle de ce sujet. Comment faire face à ce problème dans nos vies du toujours vouloir davantage, ne jamais être content de ce que nous avons. Et souvent, c'est quelque chose qui nous rend malheureux. Et ce qu'on a, on voudra quelque chose de mieux, on voudra quelque chose de plus, mais souvent ce qu'on a donne envie à ceux qui ont moins que nous. Ceux qui en sont restés au Nokia seraient envieux de mon iPhone 4. Le manque de contentement, l'insatisfaction. La Bible a des choses à nous dire à ce sujet. Et c'est quelque chose qui peut être pernicieux, quelque chose qu'on ne remarque pas. Et c'est vrai, encore une fois, que c'est encouragé par l'économie. On n'a pas besoin d'aller dans le magasin pour chercher un catalogue. Maintenant, on nous envoie les catalogues qui viennent remplir nos boîtes aux lettres. Il n'y en a pas qu'un seul. Et quand ça arrive, il y en a toute une pile. Et on peut se dire, oui, j'ai besoin de ce nouveau produit. Et ça nous rend malheureux. Et c'est vrai qu'on va voir dans un passage, c'est que le contentement, ce n'est pas quelque chose d'inné chez l'homme, ce n'est pas quelque chose qu'on a naturellement. Ça nous amène à des comportements irrationnels. Il y a l'histoire traditionnelle, aux États-Unis, il y a des parkings un peu partout. Et devinez où se garent les gens qui viennent faire de l'exercice dans les gymnases ou pour faire les fitness centers. Où est-ce qu'ils vont se garer? On pourrait penser qu'ils se garent tout au bout, histoire d'avoir à marcher, de commencer à faire de l'exercice. Non, ils vont se garer devant l'entrée du gymnase. On veut toujours mieux, on veut toujours plus facile. On va même faire des efforts pour prendre la place de la personne qui part juste devant. C'est un problème. Et un peu comme l'humilité, si on pense l'avoir obtenue, on se met le doigt dans l'œil. J'ai appris cette leçon en n'ayant pas tous mes désirs d'enfant satisfaits, à attendre, à avoir de la patience, à réaliser que ce n'est pas un besoin essentiel. Mais c'est comme l'humilité. L'humilité, dès qu'on commence à penser qu'on est humble, on a fait éclater la bulle de savon qui flottait dans l'air. Si je me considère comme quelqu'un d'humble, pof, j'ai l'orgueil qui s'est installé. Et de la même façon, le contentement, c'est quelque chose à rechercher. Et on va regarder un passage de la Bible, si vous voulez vous tourner avec moi dans Philippiens. Souvent, lorsque l'on parle d'un sujet comme le contentement, une bonne question, c'est toujours de se dire, est-ce que c'est toujours une mauvaise chose ou pas? Et avant qu'on voit le contentement auquel j'ai fait allusion depuis le début, je veux vous dire qu'il y a une insatisfaction, un manque de contentement qui est une bonne chose. Et ce manque de contentement qui est à encourager, à louer, à cultiver, c'est le désir pour davantage de Dieu dans nos vies. Davantage de Christ dans nos vies. C'est intéressant que Paul, dans cette lettre qu'il écrit aux habitants de la ville de Philippe, en Grèce antique, il parle d'abord de ce manque de contentement qui est une bonne chose, en disant, regardez au chapitre 3 de Philippiens, verset 12, il dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Autrement dit, il veut davantage de Christ, de Jésus-Christ dans sa vie. Il fait des efforts pour ne pas se contenter de sa relation avec Dieu. Et là aussi, il y a un danger qui nous guette tous, c'est de penser qu'on est arrivé à un certain niveau dans notre relation avec Dieu. On vient au culte, On a un temps de prière chaque jour, on lit même peut-être la Bible en un an, on fait du bien autour de nous. Et donc on trouve qu'en fait notre vie, elle est satisfaisante, on a trouvé la satisfaction dans notre relation spirituelle. Mais la chose avec Dieu, c'est qu'il nous appelle toujours à une relation plus étroite, plus riche avec lui. Et il est donc un domaine où on ne doit pas se satisfaire, trouver qu'on a atteint un certain niveau qui est satisfaisant, c'est celui de notre relation avec Dieu. Il y a toujours plus à rechercher avec lui, et dès qu'on s'arrête, ça fait penser un peu aux enfants qui essayent de, ou aux adultes peut-être, il y en a parmi vous qui font ça de temps en temps quand personne ne regarde, qui consiste à essayer de monter un escalator qui descend. Si on veut arriver en haut, il faut vraiment faire des efforts. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais peut-être que j'essaierai de nouveau. Il y a l'escalator qui descend, et si on veut vraiment progresser, il faut faire des efforts. Et avec Dieu, c'est pareil. Si on se laisse aller, le monde, notre vieille nature nous ramène en arrière et on ne va pas progresser avec Dieu. On va régresser, on va reculer. Et ça, ce n'est pas un bon endroit dans lequel on doit se trouver si on veut vivre pour Jésus-Christ, si on a compris que notre vie ici-bas, comme on l'a rappelé, elle est très brève. Et il y a toute une éternité qui nous attend. Et pour ceux qui ne m'auraient pas entendu citer Woody Allen, l'éternité, c'est très long, surtout vers la fin. Ça dure longtemps. Ça dure très longtemps. Et notre vie, ici-bas, même si nous vivons 120 ans, 125 ans, je crois que c'est les records qu'on connaît pour l'instant. Ça, c'est une goutte d'eau en comparaison d'une éternité que nous allons passer avec Dieu ou loin de lui. Donc, je voulais mettre les choses au clair. Il y a un domaine dans lequel il est bien de ne pas se contenter de ce qu'on a. C'est le domaine de notre relation avec Dieu, avec Jésus-Christ, notre connaissance de la parole, notre service pour lui en servant les autres. Il y a toujours davantage à faire et c'est toujours quelque chose de bon. Par contre, dans le domaine matériel, dans le domaine de notre vie ici-bas, Paul nous dit, à partir du verset 10, et je resitue le contexte, Paul est en prison. Et c'est lui qui va donner des cours de contentement à des gens qui sont libres de leur mouvement, du moins. Et il écrit, il a reçu un don de l'église chrétienne de Philippe, qui est arrivé par l'intermédiaire d'un de ses amis, Épaphrodite. Et là, il écrit cette lettre pour remercier ces Philippiens pour leur don. Et voilà ce qu'il dit au verset 10 du chapitre 4. Je lis dans la version second 21. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Il leur dit qu'il a reçu leur don avec une grande joie dans le Seigneur. Lorsqu'il dit qu'ils ont pu renouveler leur intérêt pour lui, l'expression dans le texte original, c'est que leur intérêt pour lui a refleuri comme une plante qui retrouve de la vigueur. Il l'avait aidé financièrement, il y avait quelques années, mais pour une raison que nous ne savons pas, soit qu'il n'avait pas d'intermédiaire pour amener une offrande à Paul, soit qu'ils aient eu d'autres priorités, Paul dit qu'il les remercie et il a éprouvé une grande joie dans le Seigneur. Il leur dit, vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. On peut penser que c'est Épaphrodite qui lui a dit. Et il dit, ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Comme aujourd'hui, les prisonniers peuvent améliorer leur ordinaire s'ils ont un peu d'argent, soit qu'ils puissent soudoyer leurs gardiens pour avoir quelques avantages, soit qu'ils puissent acheter des produits d'alimentation qui peut un peu améliorer l'ordinaire ou leur vie. Donc, Paul avait des besoins, et verset 11, il dit, « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, j'ai appris à être satisfait de ma situation. » Je continue, « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Entre parenthèses, Christ ou Dieu. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique, déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il termine en disant, saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. On peut penser que ce sont des formules de politesse, mais ce sont des choses qui signifient quelque chose de très profond pour Paul. Et il fait allusion au fait qu'il est enchaîné avec des gardiens, à un gardien romain, en prison à Rome, mais il partage la bonne nouvelle de l'Évangile avec cette audience captive. Il est prisonnier, mais les gardes qui le surveillent et qui sont attachés à lui sont aussi prisonniers. Et étant le grand évangéliste qu'il était, il parlait sans arrêt de sa foi. Et beaucoup de ses gardiens sont venus à la foi en Christ. C'est de ça qu'il parle lorsqu'il dit les saints. Les saints, ce n'est pas des personnages avec un halo sur la tête, ce sont des gens qui, par leur foi en Christ et en son sacrifice, se sont mis à part. C'est ce que veut dire le mot saint. C'est quelqu'un qui est consacré, qui est mis à part pour le service de Dieu. Il leur dit merci et en même temps il explique pourquoi il dit merci. C'est Benjamin Franklin, le célèbre personnage américain qui était imprimeur, inventeur, qui disait « Qui est riche ? C'est la personne qui vit dans le contentement. » Et qui est cette personne ? Réponse : personne. Il reconnaissait que c'était une chose difficile à maîtriser, Un autre auteur chrétien disait choisissez plutôt de vouloir moins que d'avoir plus. C'est un peu la leçon que j'avais apprise, c'est que je pouvais vouloir moins que ce bateau plutôt que d'essayer d'avoir un bateau. Et la chose terrible, c'est que si on a ce principe d'insatisfaction dans nos cœurs, une fois qu'on a acquis ce bateau, on veut un plus grand bateau. Une fois qu'on a trouvé un logement, on veut un bel appartement, on veut une maison. Une fois qu'on a une maison, on veut une maison plus grande, plus au calme, avec une piscine. Et ça continue. Là, on va voir quelques principes. Le psalmiste disait : je demande à l'Éternel une chose, une seule chose, que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Là, c'est une référence au non-contentement spirituel. David, le psalmiste, demandait une seule chose, il voulait toujours davantage. Il recherchait ardemment, c'était être dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence, pour admirer son temple. Il voulait plus. Moi, c'est plutôt 7 ou 10 autres choses que je demande à l'Éternel. Paul, là, nous dit que, en fait, c'est pas pour ses besoins qu'il a demander qu'il remercie les Philippiens qui lui ont fait un don, une offrande. Un des premiers principes, c'est que la personne qui va vivre dans le contentement fait confiance à la providence de Dieu pour ses besoins. C'est d'avoir la foi que Dieu est souverain et qu'il contrôle les choses de façon à ce que mes besoins soient satisfaits. Pas tous mes désirs nécessairement, mais mes besoins. Quand j'étais yo-yo, j'avais pas besoin d'un bateau, d'un you-you, mais j'avais besoin de nourriture. Et par l'intermédiaire de mes parents, Dieu a pourvu à ses besoins essentiels et j'ai pu grandir. Et je remercie mes parents, mais je remercie Dieu d'avoir permis, par sa providence, par sa provision, que ses besoins ont été satisfaits. Et c'est intéressant, il faut avoir cette foi dans un Dieu souverain qui contrôle les circonstances pour que je ne manque de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, disait David dans le psaume 23. Si il y a un Dieu qui vous aime, il va prendre soin de vos besoins. Le jour où j'aurai vraiment besoin d'un nouvel iPhone, il pourvoira. J'ai pas besoin d'aller braquer une banque. Parce que maintenant, le prix de ces nouveaux appareils, c'est plus cher qu'un ordinateur maintenant. Ça dépasse les 1000 euros et plus. Ce serait la conduite à tenir. La foi, la personne qui vit dans le contentement, fait confiance à Dieu pour pourvoir à ses besoins. Il y a une différence entre la providence de Dieu et les miracles de Dieu. Dans le sens où un miracle de Dieu, c'est quelque chose qui défie le cours des choses, le cours habituel des choses. C'est l'eau, la badoie, qui se transforme en champagne. ça ne se voit pas tous les jours. Il faut, au mariage de Cana, aux noces de Cana, il a fallu que Dieu, Jésus, exerce un miracle pour que de l'eau plate se transforme dans le meilleur vin qui soit. La providence de Dieu, c'est Dieu qui contrôle souverainement les circonstances autour de moi pour amener des résultats qui me sont favorables. Pour Dieu, il n'y a pas de différence d'effort. Il peut aussi bien choisir de guérir un rhume que de choisir de guérir un cancer. Il a cette capacité, et bien souvent on se dit, mais si Dieu a cette puissance, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Alors on n'a pas nécessairement les réponses simples à ces questions, mais lorsqu'on ne connaît pas les réponses compliquées, la Bible nous invite à nous tourner vers les choses simples qu'on sait de Dieu. Dieu est bon, Dieu est juste, il nous aime, il a notre intérêt éternel, pas nécessairement ici-bas, en vue. Et il peut nous faire passer par des épreuves parce qu'il y a un bien supérieur à dont nous pouvons faire l'expérience. Alors il ne s'agit pas, lorsque les personnes sont dans la souffrance, de donner des réponses insensibles et de ne pas compatir à la douleur, à l'inquiétude, mais d'inviter les gens à faire confiance à Dieu et de se tourner vers lui et de s'en remettre à lui. Dieu nous dit que nous devons avoir une foi d'enfant. Laissez venir à moi les petits-enfants, car c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Je me souviens lorsque nous sommes installés en France, que j'avais quitté mon travail dans l'idée de commencer un travail d'implantation d'église, même si c'était très flou au début. Je me demandais comment on allait pouvoir faire financièrement. Mais jamais mes enfants, Tonio et Sébastien, se sont inquiétés pour leur repas suivant. Ils faisaient confiance à leurs parents. Et nous-mêmes, nous devons faire confiance à Dieu pour ses besoins qu'il va satisfaire. Il nous dit, je ne dis pas cela en raison de mes besoins. Il se réjouit non pas parce que ça lui fait du bien et que ses besoins vont être satisfaits, parce qu'il nous explique, il a appris à se contenter de l'état où il se trouve. Il ajoute, je sais vivre dans l'humiliation, c'est-à-dire dans le dénuement, et il sait aussi bien vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la disette. La personne qui vit dans le contentement sait se satisfaire de peu de choses. Et il y a une grande liberté à pouvoir passer d'un état où on est dans le dénuement à un état où on est dans l'abondance. On peut avoir des relations avec des gens très humbles, des gens très pauvres, et en même temps être capable d'avoir des relations libres de tout jugement social ou préjugé de niveau avec des gens très riches. Parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas ce qui définit l'homme. J'ai eu le privilège de connaître un banquier qui avait hérité d'une banque dans l'état de Washington, Il a longtemps, jusqu'à ce qu'il décède, il nous a rendu visite, jusqu'à ce qu'il décède, il a soutenu l'œuvre que nous avions commencée ici. C'était drôle d'aller chez lui quand on passait aux États-Unis et de voir une des nouvelles maisons qu'il s'était faite construire. On aurait dit plutôt une loge ou un hôtel de luxe dans les montagnes. Mais c'était quelqu'un de simple qui savait vivre dans l'abondance. Et moi, quelque part, pour quelques heures, je vivais dans l'abondance. Et puis après, je retournais à mes fréquentations plus traditionnelles, qui n'étaient pas nécessairement pauvres, mais il y a une grande liberté à savoir se contenter de peu et aussi à savoir être entouré de richesses et de choses. Et c'est ce que Paul dit, il sait se satisfaire de peu. Et généralement, c'est le plus dur, se satisfaire de peu. Et on s'aperçoit que les choses essentielles de la vie, c'est pas nécessairement le compte en banque, ça peut être simplement de l'eau fraîche. J'ai eu la joie et le privilège de faire une randonnée, un camp itinérant chrétien dans la région entre Gourdon et la haute vallée de l'Estéron. Et il faisait chaud déjà. Et on a fait en une semaine, on a fait près de 70 km. On a fait je ne sais pas combien de dénivelés en positif et en négatif. Mais on s'aperçoit que ce qui compte, c'est pas nécessairement d'avoir une carte de crédit. On serait prêt à donner une carte de crédit pour trouver une fontaine où coule de l'eau fraîche. D'avoir soif et de pouvoir étancher sa soif à une fontaine où coule une eau fraîche. Ça nous donne une idée des vraies valeurs. On sait que dans le monde entier, il y a peu d'endroits qui ont un accès à de l'eau potable. Et c'est un grand privilège qu'on néglige, on dit même pas merci à Dieu pour l'eau fraîche qu'on peut boire. Paul, il nous dit il dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. C'est le mot qui veut dire je sais par expérience. C'est pas une théorie des choses que je vous donne à méditer ou des propos philosophiques, c'est quelque chose que je connais de l'intérieur. Et il dit, en tout et partout, j'ai appris à vivre à la fois en étant rassasié ou en n'ayant rien, en étant dans l'abondance ou en étant dans la disette, dans le dénuement. Il dit, j'ai appris par expérience. Là encore, ce n'est pas quelque chose pour laquelle on prie d'un seul coup, on est toujours content. On est toujours satisfait de notre sort. Non, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend par expérience. C'est pour ça que le yu-yu de yo-yo, pour moi, ça a été un apprentissage du contentement. Et là encore, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a appris à se passer de certaines choses, qu'on peut dire, ça y est, je maîtrise. J'ai plus de besoins ou de désirs qui me taraudent, qui m'empêchent d'être content de mon sort. Non, c'est quelque chose qui s'apprend. Paul, apparemment, avait atteint un certain domaine. Mais il avait donc, il disait, je ne vous dis pas merci parce que vous avez permis que mes besoins soient satisfaits, parce qu'il dit en fait mes besoins, j'ai appris à savoir m'en passer. Et c'est vrai qu'on peut avoir très soif et pouvoir se passer pour un temps d'eau fraîche. Quand j'ai fait la randonnée, j'ai eu le désir d'acheter quelque chose quand je suis rentré à Nice. D'habitude, quand je fais des randonnées, c'est pendant une journée, une après-midi, donc c'est jamais bien, bien long. Et c'est pas bien grave, on peut s'arrêter, sortir une bouteille d'eau et se désaltérer. Mais là, j'étais avec un groupe de randonneurs expérimentés et ils ne s'arrêtaient presque jamais pour boire. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une réserve d'eau dans leur sac à dos, un camelback, ou on appelle ça une poche à eau. Ils avaient un tube qui sortait et ils pouvaient se désaltérer au fur et à mesure. Et là, en parlant de contentement, je me suis dit, ça c'est là. C'est le vrai bonheur. Et souvent, ils ne s'arrêtaient pas parce qu'ils s'étaient désaltérés en suçant sur leur bouteille, leur poche à eau. Donc, dès que j'ai pu, j'ai été m'acheter une poche à eau. On a fait une randonnée la semaine dernière et j'ai goûté au bonheur de pouvoir me désaltérer en permanence. Et je vous le recommande. J'en ai même offert une pour l'anniversaire à Sébastien Pic, qui aime bien faire la randonnée, mais qui avait plus sa poche à eau. Tout ça pour dire qu'on a toujours des nouveaux désirs. Et là, c'était facile, c'était seulement 8 euros à Décathlon. Donc ça ne vaut pas la peine de s'en passer. Paul dit, je sais me satisfaire de peu de choses. Et puis, il nous dit, il est soumis, la personne qui vit dans le contentement ne dépend pas des circonstances. Qu'il soit dans le dénuement ou l'abondance, qu'il soit rassasié ou qu'il ait faim, il a appris et il n'est pas victime des circonstances. Il nous dit aussi, verset 13, « Je puis tout par celui », certains textes manuscrits parlent de « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Le principe, c'est que la personne qui vit dans le contentement puise sa force dans la puissance divine. Si on sait que Dieu est là, qu'il vit en moi, Paul disait dans Galates 2:20, vous connaissez ce passage, j'ai été crucifié avec Christ. C'est quelque chose de symbolique, mais aussi une réalité spirituelle. Si nous mettons notre foi, notre confiance en Jésus-Christ pour son sacrifice, Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Christ vit en moi, je suis dans l'union avec Christ et je puis faire tout dans le domaine physique, matériel, par Christ qui me fortifie. Souvent on utilise ce verset de façon triomphaliste pour dire que je peux évangéliser à moi tout seul toute la France ou toute l'Afrique ou toute la Chine. Dans ce cadre, c'est vraiment avoir la force, la puissance. C'est la même idée que lorsque le prophète Ésaïe disait dans Ésaïe 40, versets 29 et 31, il donne de la force à celui, parlant de Dieu, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Vous vous sentez peut-être à bout, mentalement, physiquement, financièrement. à cause de la chaleur, du manque de sommeil, avec les températures qui baissent pas la nuit. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Nous pouvons faire toute chose si c'est Christ qui est en nous, qui nous fortifie. La question, c'est de qui nous dépendons. Si nous dépendons de Dieu, de Christ, il va nous fortifier. Et puis il ajoute, cependant, c'est une transition, on revient à Philippiens, verset 14, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoise, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. Il les remercie en disant qu'ils ont été les seuls à le soutenir lorsqu'il a porté l'Évangile dans la région de la Macédoine. Mais ils ont été les seuls lorsqu'il a quitté à continuer à le faire, sauf pour une interruption, mais là, ils viennent de nouveau lui envoyer un soutien financier. Et verset 17, et après, pardon, avant, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. Qu'est-ce qu'il dit là, en fait ? Il dit que ce qui compte, ce n'est pas tellement qu'il ait reçu un soutien financier, mais c'est qu'un ce don va leur bénéficier. Et il y a un principe biblique qui dit que celui qui donne, il est béni en retour. On dit que on ne peut pas emmener notre argent avec nous. Notre compte en banque, il va le rester sur le compte de la banque, en espérant que vous pourrez le transmettre à vos héritiers, sans que l'État n'en prenne trop. Ce compte en banque, vous ne pouvez pas l'emmener avec vous, mais vous pouvez, en donnant à l'œuvre de Dieu, ouvrir un compte éternel dans les choses spirituelles. Lorsque vous donnez pour l'œuvre de Dieu, que ce soit par la dîme, par les offrandes, en soutenant des missionnaires, en soutenant des gens dans le besoin au nom de Dieu, c'est comme si vous investissiez cet argent, ces ressources physiques, vous les transformez en ressources spirituelles. Et c'est l'idée, je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. Il y a un compte spirituel, un compte en banque éternel où jamais les voleurs ou les cracks boursiers ne vont toucher. La meilleure façon d'investir dans le futur, c'est d'investir dans les choses spirituelles. Il leur dit, ce qui me réjouit, c'est pas que vous m'avez donné de quoi améliorer l'ordinaire, de quoi peut-être acheter quelques nourriture, des fruits, des choses meilleures que ce qu'on me donne à manger. Mais moi, ce qui me réjouit, c'est qu'un fruit abondant va vous allez bénéficier d'un fruit abondant. Autrement dit, la personne qui vit dans le contentement, elle se préoccupe, elle se soucie du bien-être des autres. Souvent, lorsque nous vivons dans l'insatisfaction, c'est parce que nous regardons à nous-mêmes. Nous avons les yeux centrés sur nous-mêmes. Et ce que les choses ont et que nous n'avons pas, ça donne de l'envie, du désir, de la jalousie. Mais si nous nous réjouissons parce que les autres ont ces choses, nous nous réjouissons parce que nous voulons leur faire du bien. Parce que même si nous avons peu de choses, nous pouvons donner de notre peu. Jésus faisait des compliments en parlant à ses disciples de la générosité de la pauvre veuve, une espèce de tante Marie, qui était prête à acheter un you-you pour Jésus. Elle était prête à donner, elle donnait de son besoin élémentaire, elle avait donné deux toutes petites pièces, on dirait aujourd'hui des 102 centimes d'euros, pour le royaume de Dieu, pour servir pour le temple. Et il disait qu'elle avait donné plus que les gens riches qui faisaient leur simagré pour montrer qu'ils donnaient. Ils faisaient sonner de la trompette. « Regardez-moi bien, je dépose de l'argent pour l'offrande, pour le temple, pour le royaume de Dieu. » Non, il disait, elle qui l'avait fait dans la discrétion, elle était dans la générosité absolue. Et une grande part de notre satisfaction personnelle va être de nous soucier des autres qui ne vivent pas dans l'abondance, d'avoir à cœur de donner. Et Jésus a dit qu'en fait, il était dans le livre des Actes, Actes 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous avez peut-être fait cette expérience étrange qu'en fait vous pouvez donner et au lieu de dire maintenant ce que j'ai ça va me manquer, votre joie est plus grande que de garder parce que vous allez bénir quelqu'un d'autre. L'amour, c'est la meilleure motivation pour donner. Quand vous payez vos impôts, votre motivation, ça va plutôt être la peur. Parce que vous voulez, normalement, peut-être qu'il y a des exceptions, des gens un peu anormaux, qui auraient peut-être besoin de voir un psychologue. Mais généralement, quand on paye les impôts, on veut bien payer ce qu'il faut, mais pas un centime de plus. Il y a même des professions, des gens dont le métier, c'est de vérifier que vous donnez tout ce qu'il faut pour ne pas être sous le coup d'une punition par la loi, mais surtout de profiter de tous les avantages légaux qui sont permis. Si vous faites des dons à l'Église ici, vous pouvez déduire dans la proportion de 60% de ces dons de vos revenus. Donc il y a des tas d'avantages fiscaux, mais en général, on ne va pas dire « Tiens, j'aime bien le ministre de l'économie, je vais donner un petit peu plus que ce qu'ils m'ont demandé. » Alors que si vos enfants vous demandent un téléphone, vous allez peut-être faire tous vos efforts pour leur donner le plus beau, le plus récent. N'est-ce pas? Parce que c'est l'amour qui vous motive. Et de la même façon, si nous voyons les autres qui nous entourent avec amour, si nous voulons leur donner quelque chose, on s'oublie. Je peux vous garantir que ça fait du bien de s'oublier. On est tellement heureux lorsqu'on cesse de penser à soi et à nos besoins. Parce que lorsqu'on pense à soi et à nos besoins, on a tendance justement à vivre dans l'insatisfaction et être sensible à toutes les publicités, à tout ce que les gens autour de nous peuvent ou ne pas avoir ou ne pas avoir. Et donc, pour résumer, 5 mots pour le secret du contentement. La foi, l'humilité, se satisfaire de peu, la soumission, faire confiance à Dieu, la dépendance, savoir qu'il va pourvoir, et le désintéressement. C'est intéressant parce que le mot contentement, c'est un mot qui vient du grec, dans le texte en grec, c'est le mot autarkie. Alors je vous dis ce mot grec, autarkie, c'est pas pour vous impressionner avec ma connaissance du grec. N'importe qui peut regarder dans un dictionnaire. Mais c'est parce qu'il y a, un nom en français, il y a un mot en français qui est plus très connu. C'est le mot autarcie. Et vivre en autarcie, c'est vivre en circuit fermé. Récemment, il y avait un pays dans le monde, un seul pays dans le monde, qui ne participait pas aux échanges commerciaux entre les pays. On parle aujourd'hui de la globalisation, de la mondialisation, qui serait peut-être la cause de tous nos maux. Certains appellent à un recentrage sur nous-mêmes. L'autarcie, c'est vivre sans aucun échange commercial avec les autres pays qui vous entourent. Et le seul pays au monde qui ait récemment essayé de faire ça, c'était l'Albanie. Avant la chute du régime communiste très strict qui était là-bas, c'était le seul pays athée, officiellement athée de tous les pays qui vivent sur la Terre. C'est intéressant que ce pays athée, qui ne croyait pas en Dieu, avait aussi pour philosophie de vivre replié sur lui-même. Le mot grec ne veut pas dire simplement replié sur soi-même, mais veut dire dépendre de ne pas être dépendant des autres, sous-entendu d'être dépendant de Dieu. Donc il y a une bonne autarcie, c'est cette autarcie qui consiste à dire je fais avant tout confiance à Dieu. Et terminons. J'ai tout reçu, verset 18. J'ai bien, tout a été réglé. Épaphrodite n'a pas gardé quelque chose pour lui. Et je suis dans l'abondance. J'en ai plus qu'assez, je suis complètement rempli. Et il dit, j'ai reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. C'est un peu un vocabulaire de l'Ancien Testament, des dons qui étaient faits. Les gens à l'époque offraient des animaux en sacrifice qui leur coûtaient de l'argent. On sait même qu'à l'époque de Jésus, il fallait qu'ils soient achetés dans le temple et ils étaient plus chers que si on les avait achetés au dehors parce qu'il y avait des gens qui profitaient de la joie, de la foi des fidèles pour faire de l'argent. Il leur dit votre don et nous aussi nous pouvons faire comme un sacrifice de bonne odeur. Ça peut être des prières, ça peut être aussi des dons. On ne fait pas une cérémonie de l'offrande que vous êtes invité à faire. Il y a une boîte qui est disponible pour vos offrandes et vos dîmes. Mais sachez que ça fait partie de la façon dont on adore Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de dire, Dieu, je ne sais pas comment je vais m'en sortir ce mois-ci, mais voilà, je te fais confiance et je donne pour ton œuvre. Alors que ce soit ici, c'est important de donner à l'église locale, mais ça peut être aussi le soutien de missionnaires que vous connaissez, le soutien d'œuvres chrétiennes. C'est comme un sacrifice. C'est quelque chose qui plaît à Dieu. Pourquoi ? Parce que ça montre de la foi. Et de plus, mon Dieu, verset 19, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Autrement dit, n'ayez pas peur. Dieu va lui-même... Si vous lui faites confiance, il va pourvoir à tous vos besoins, pas juste un peu de façon comptable. Vous avez donné tant, je vais vous rembourser. Non, il va nous donner selon sa richesse. Et sa richesse, on sait qu'elle est infinie. Donc, si vous voulez vivre dans le contentement, apprenez à donner généreusement. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, et ce sera pour la gloire de Christ. Vous ne pouvez pas dépasser Dieu dans sa générosité. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous croyez que si vous vous démunissez en donnant, et des fois c'est un problème, et c'est pour ça que la Bible, le Nouveau Testament ne parle de dîme, mais ne disent pas ça doit être 10% mathématiquement de votre... Dieu veut que nous donnions avec joie. Et on peut lui faire confiance. Et c'est là qu'on découvre le secret du contentement. On fait confiance en sa providence. On se satisfait de peu. On n'a pas peur des circonstances. On puise sa force dans sa puissance. Et on se soucie des autres. Et si nous faisons ça, nous comptons sur cette providence extérieure et nous avons cette présence intérieure de Christ, alors nous pouvons vivre dans le contentement et être une bénédiction, non seulement pour Dieu, mais pour les autres. C'est chouette de voir des gens qui sont heureux autour de nous, n'est-ce pas ? Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous donne des leçons tellement, tellement importantes, Seigneur. Et nous reconnaissons que nous avons à livrer ce combat dans nos vies pour vivre dans le contentement, pour être satisfaits de nos sorts, matériels, nos conditions dans ce monde. Mais en même temps, Seigneur, tu nous as rappelé que nous devons toujours vouloir davantage de toi. Nous devons toujours ne jamais nous satisfaire de notre relation telle qu'elle est maintenant avec toi. Et cette relation, elle peut être approfondie par le contentement et le souci des autres, Seigneur. Merci pour Paul qui nous donne cette leçon de vie. Aide-nous, Seigneur, à être constamment dans l'apprentissage de ce contentement. Quels que soient nos désirs, Seigneur, nous savons que tu pourvois nos besoins et que tu ne le fais pas chichement, Seigneur. Tu peux nous donner les désirs de nos cœurs. C'est toi qui les inspires, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Et personnellement, Seigneur, merci pour la leçon du you-you de yo-yo. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.